Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
À l'approche de Noël, le pape François invite les fidèles à reconnaître dans le visage des plus faibles l'image du Fils de Dieu fait homme. Le Saint-Père a présidé ce mercredi la dernière audience générale de 2013. Lampedusa, première porte d'entrée européenne pour les migrants qui traversent la Méditerranée au péril de leur vie. La petite île défraie à nouveau la chronique. Des images ont soulevé une vague d'indignation en Italie et en Europe. Le décret était attendu depuis plusieurs semaines. Le pape François a proclamé saint un de ses modèles, Pierre Favre. Nous reviendrons sur la figure de ce jésuite qui parcourut les routes d'Europe avant le Concile de Trente, allant à la rencontre de personnes de toutes conditions, y compris des adversaires et des protestants, et résistant à la montée de l'intolérance religieuse. Dans cette émission, nous verrons également qu'il est tout à fait possible de vivre Noël sans excès. Le pape François a demandé aux catholiques de réserver une place pour les pauvres à leur table lors du réveillon de Noël, le 24 décembre. Le Saint-Père s'exprimait à l'audience générale devant des milliers de fidèles en liesse. Le Saint-Père qui a lui-même partagé son petit déjeuner avec des sans-abri mardi à l'occasion de son 77e anniversaire. Il a exhorté les catholiques à ne pas oublier ceux qui ont faim, les personnes seules, marginalisées, éprouvées par la guerre et plus spécialement les enfants. Reprenant des idées qui lui sont chères, il a fustigé les chrétiens qui se pavanent, ce sont des païens, a-t-il lancé le compte-rendu de Xavier Sartre.
Quelques 30 000 personnes venues de nombreux pays s'étaient rassemblées sur la place Saint-Pierre pour cette dernière audience générale de l'année. Le pape François avait voulu centrer sa méditation sur le mystère de Noël, la fête de la confiance et de l'espérance qui dépasse toute incertitude et pessimisme. « Dieu est avec nous et il nous fait encore confiance », affirmait le souverain pontife. La terre n'est donc pas une vallée de larmes, mais le lieu où Dieu a planté sa tente, le lieu de la rencontre avec lui. Ce qu'il y a d'extraordinaire, selon le pape François, c'est que Dieu a choisi d'habiter non pas dans un monde idéal, mais dans notre monde, tel qu'il est, avec tout ce qu'il a de bon, mais aussi de mauvais, avec ses limites, le poids de ses drames, sa méchanceté, son arrogance, ses divisions et ses pauvretés, ses guerres et leurs conséquences. Dieu a voulu partager notre condition humaine, nous montrant sa miséricorde et son amour pour les hommes. Désormais, tout ce que nous faisons à notre prochain, c'est à Jésus que nous le faisons. Si Dieu se révèle à Noël, comme celui qui s'abaisse et se fait proche des petits et des pauvres, alors cela veut dire que nous ne devons pas nous ériger au-dessus des autres, mais nous mettre à leur service. L'enfant de Bethléem, vrai homme et vrai Dieu, réchauffe et transforme notre cœur. Il nous permet de ne pas nous enfoncer dans la tristesse, la fatigue ou le découragement. Noël nous dit que Dieu s'est rangé une fois pour toutes aux côtés de l'homme pour le sauver, le relever de la poussière, de ses misères, de ses difficultés, de ses péchés. Dieu est avec nous depuis toujours et pour toujours dans les souffrances et les douleurs de l'histoire. C'est la raison de notre espérance.
C'était la dernière audience générale de l'année 2013, la 30e depuis le début de ce pontificat. Sur la base des billets distribués par la préfecture de la maison pontificale, on estime les présences aux audiences générales du pape François à plus d'1,5 million de personnes. Un chiffre auquel il faut ajouter les fidèles, souvent très nombreux, qui ont participé spontanément le long de l'avenue de la Conciliazione, transformée en zone piétonne. Le record a été atteint le 29 mai avec 90 000 billets distribués. À plusieurs reprises, des écrans géants ont dû être placés à l'extérieur de la place Saint-Pierre. Cette audience générale a également été marquée par la présence d'une délégation du San Lorenzo de Buenos Aires, l'équipe de football favorite du Saint-Père, sacrée championne d'Argentine. Le pape François a reçu pendant 35 minutes les joueurs qui lui ont offert la coupe du championnat, ainsi que les gants du gardien de but. Cette coupe sera remise au musée du Vatican. Le Saint-Père, de son côté, a donné aux joueurs une petite statue de Marie à exposer dans leur stade. À la sortie de l'audience, les joueurs ont déclaré que le souverain pontife projetait de se rendre en Argentine en 2016 à l'occasion du bicentenaire de l'indépendance de son pays et d'un congrès eucharistique. Le pape François se rendra à l'église romaine du Jésus le 3 janvier prochain. Il y célébrera une messe d'action de grâce en l'honneur de saint Pierre Favre, compagnon de saint Ignace de Loyola et cofondateur de l'ordre des Jésuites, qu'il a lui-même déclaré saint ce mardi 17 décembre, le jour de son 77e anniversaire. La date du 3 janvier a été choisie puisqu'il s'agit de la fête liturgique du Saint-Nom de Jésus, titre de la Compagnie de Jésus. Le Saint-Père concélébrera avec les Jésuites présents à Rome. Mardi, il a donc étendu le culte de Pierre Favre à l'église universelle au cours d'une audience accordée au préfet de la Congrégation pour les causes des saints, sans cérémonie de canonisation et sans attendre que la Congrégation valide un miracle obtenu par son intercession. Le pape François avait déjà eu recours à cette pratique extraordinaire le 9 octobre dernier pour la canonisation d'une Italienne, Angela da Foligno. Pour le pontife actuel, selon ses propres confidences, Pierre Favre est un modèle de spiritualité et de vie sacerdotale, un contemplatif en action, doux et patient, une référence importante pour comprendre sa manière de gouverner. Retour donc sur la figure de ce jésuite avec Dominique Bertrand, auteur de Pierre Favre, un portrait.
Pierre Favre, qu'il a été au début vraiment considéré comme le premier compagnon de saint Ignace, avant même saint François-Xavier. Dans cette petite trinité des compagnons, au début, Pierre Favre est vraiment le second de saint Ignace. Ensuite, Pierre Favre est envoyé en mission, d'abord au nord de l'Italie et en Allemagne, autour de Cologne, qui est déjà très marquée par le protestantisme et par le luthéranisme.
Pierre Favre est contemporain de la réforme protestante. Il a toujours recherché le dialogue justement avec les protestants. Est-ce qu'on peut parler de Pierre Favre comme une première figure, un pionnier de l'œcuménisme ?
C'est tellement vrai ce que vous dites. Il a écrit, juste avant de partir à Trente, qui est un concile qui a essayé de répondre à la requête protestante, donc de Luther particulièrement, il a écrit que dans le dialogue avec des hérétiques, il faut commencer par parler de ce sur quoi on est d'accord avant de discuter des points de friction. Cette formule, elle a été reprise par Jean-Paul II au propos du dialogue œcuménique.
Dans sa mission au service de l'Église, quelles sont les principales caractéristiques à retenir ? Quels sont les points force de sa biographie ?
La ligne de force de sa spiritualité, c'est la mission auprès des croyants et des incroyants pour faire passer l'Évangile. Il ressent profondément, comme saint Ignace, la nécessité pour tous, catholiques d'abord et les autres ensuite, de retrouver l'essentiel.
Dans son interview donnée à la revue Jésuite Études, le pape François indique que Pierre Favre est l'un de ses modèles. Est-ce que vous pouvez déjà sentir la force de ce modèle dans le début du pontificat de François ?
Une formule que nous aimons beaucoup actuellement dans la compagnie, depuis quelques années, c'est aller aux frontières, plus aller seulement en Chine, ce que a fait François-Xavier, mais c'est aller aussi, ça c'est tout à fait Pierre Favre, aller à ces frontières qui sont présentes là où nous sommes en Europe, c'est-à-dire les frontières de l'incroyance, la différence des confessions, la sécularisation qui marque notre époque. Voilà le lieu. Dans l'esprit de Pierre Favre, il ne faut pas avoir peur de s'avancer. Vous savez que le pape François, avant d'être pape, a donné une retraite à des évêques en Amérique latine. Cette retraite, elle conduit les évêques à devenir missionnaires. Pierre Favre n'a jamais eu, sauf tout à fait à la fin de sa vie, quand il était en Espagne ou au Portugal, n'a jamais vécu dans une communauté. Il vivait n'importe où, en quelque sorte. Par exemple, cette manière qu'a le pape François de visiter à Villa Saint-Marthe, c'est une manière de dire, c'est pas inutile de se rapprocher du peuple pour être plus près de lui et ne pas laisser gagner de la distance, trop de distance et même pas du tout de distance entre le peuple et les pasteurs.
Dominique Bertrand, auteur de Pierre Favre, un portrait, était interrogé par Jean-Baptiste Cocagne. En Syrie, l'armée de l'air poursuit son offensive pour écraser la rébellion dans les secteurs contrôlés par les insurgés. Des dizaines d'enfants ont péri depuis dimanche dans les quartiers rebelles d'Alep, la grande métropole du Nord, ex-capitale économique de la Syrie. Ces raids seraient menés la plupart du temps avec des barils d'explosifs largués à partir d'avions et d'hélicoptères militaires. Plusieurs hôpitaux déjà démunis sont débordés par l'afflux de victimes alors qu'une conférence de paix internationale est prévue à Montreux, en Suisse, le 22 janvier. Je vous propose d'écouter l'archevêque grec catholique d'Alep, Mgr Jean Barre.
La situation est très difficile, très, très dure pour les citadins, pour les habitants d'Alep. Il fait très froid, les moyens pour se réchauffer sont vraiment très pauvre. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas suffisamment de carburant. Tout a renchéri. C'est une vie vraiment très difficile pour nous et pour les fidèles surtout. Mais les pauvres familles, les enfants, les plus pauvres aussi, encore plus que ceux qui ont un peu d'argent, souffrent énormément. Et nous ne savons pas comment les choses vont se terminer. Parce que il y a des bombardements venant des deux côtés de toutes parts et les bombardements ne laissent tranquille aucun quartier. Les quartiers chrétiens reçoivent des bombes, même les autres quartiers qui ne sont pas chrétiens. Et en fin de compte, ce sont les citadins, les citoyens qui payent cette guerre vraiment folle.
Monseigneur Jumbar, il y a une autre tragédie qui concerne les villages chrétiens de Kanaye et Maloula. Qu'est-ce qu'il passe là?
Maloula, Knaïe, Yacoubie, différents villages où les fondamentalistes et l'armée de Jaish al-Nusra et l'armée d'Irak et du village Cham sont rentrés. Ils ont imposé la loi coranique. Ils perçoivent maintenant la dîme, taxe spéciale pour les non-musulmans. Et ils ont interdit la manifestation des signes chrétiens, des croix. On ne sonne plus les cloches dans les églises. Les femmes doivent sortir couverte avec le voile, c'est une situation très pénible pour nos chrétiens qui ne sont pas habitués à ça et qui n'acceptent pas cette imposition qui est pour eux comme une sorte de torture morale. Hier, un prêtre d'un de nos villages dans la région de Knaïe, il nous a appelés, il nous a dit que nous sommes vraiment très malheureux, mais nous résistons, nous essayons de nous arranger pour que ces moments très difficiles passent. On dirait que c'est une guerre satanique, parce qu'elle ne fait que de destruction et mort et injustice. Et c'est une chose vraiment que nous supportons avec la foi et l'espérance. Et nous demandons au Seigneur de nous aider à supporter ces contrariétés, à nous aider et à aider nos fidèles à résister, à rester dans le pays, à ne pas quitter. Parce que quand même, leur départ serait une catastrophe. L'Église qui est là depuis 2000 ans se trouvera vidée et se trouvera dans une situation, si ça continue comme ça, de quasi-mort.
L'archevêque Melkite d'Alep, Mgr Jumbar, interrogé par notre confrère de la rédaction italienne, Salvatore Sabatino. La colonisation israélienne est un obstacle aux efforts de paix au Moyen-Orient. Le patriarche latin de Jérusalem l'affirme dans son traditionnel message de Noël présenté ce mercredi à la presse. Selon Mgr Fouatoual, même si la tension mondiale s'est déplacée vers le drame de la Syrie, le conflit israélo-palestinien reste capital dans la région et constitue un obstacle majeur à la stabilité du Moyen-Orient qui à son tour encourage l'émigration des chrétiens. L'important, a-t-il dit, est de ne pas toucher à Jérusalem-Est, dont la question est encore sur la table de discussion. Le patriarche latin de Jérusalem présidera la messe de minuit mardi en l'église de la Nativité à Bethléem, en présence notamment du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Le président de la Commission épiscopale italienne pour les migrations a réagi aux images du traitement choc infligé aux migrants à leur arrivée dans le premier centre d'accueil de l'île de Lampedusa. Des images diffusées par le journal de la deuxième chaîne de la télévision publique italienne. Monseigneur Francesco Montenegro, qui est aussi archevêque d'Agrigente en Sicile, exprime sa profonde indignation devant des pratiques qu'il qualifie de terrifiantes. Antonino Gallofaro.
Dans des images apparemment tournées avec un téléphone portable par un réfugié présent au centre depuis 65 jours, on voit des réfugiés se mettre à nu dans un espace qui semble en plein air avant d'être soumis devant les autres à des jets d'un traitement contre la gale. Le même traitement serait infligé aux femmes. Monseigneur Montenegro demande que les choses soient tirées au clair et qu'une enquête approfondie soit menée pour établir la vérité. Selon lui, la situation d'urgence auquel le centre de premier secours de Lampedusa est confronté ne peut pas justifier des attitudes qui portent atteinte à la dignité humaine et aux droits de l'homme. Il demande que ce centre soit restructuré et que d'ici là, la présence des migrants y soit limitée à quelques heures. L'administrateur de la coopérative qui gère depuis 5 ans la structure d'accueil s'est justifié en affirmant que normalement les traitements se font à l'infirmerie. Mais 3 bateaux avec plus de 100 personnes à bord sont arrivés et des cas de rage étaient fortement suspectés. Selon lui, le traitement a duré 1h30. À un moment, des réfugiés se seraient impatientés et auraient commencé à se déshabiller. Quoi qu'il en soit, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a demandé au gouvernement italien des solutions urgentes pour améliorer l'accueil des nouveaux arrivants. tandis que la Commission européenne a menacé Rome de sanctions.
Les drames de l'immigration ont été inscrits à l'ordre du jour du sommet des dirigeants de l'Union européenne, jeudi et vendredi à Bruxelles, avec l'examen des actions possibles pour lutter contre le trafic des réfugiés et éviter de nouvelles tragédies. Vivre à Noël sans excès, c'est possible et c'est ce que propose cette année encore le collectif Vivre Autrement. Ce collectif, qui regroupe 24 associations chrétiennes, a décidé de proposer, en plus de l'affiche habituelle, un livret pédagogique Noël sans cadeau, mais avec joie, simplicité, imagination et fête. Il a été pensé pour accompagner de manière constructive les personnes qui en ont assez des fêtes remplies exclusivement de cadeaux et d'excès alimentaires. Laura Morosini, de l'association Chrétiens Unis pour la Terre, est l'un des auteurs du livret.
Il y a un aspect plus historique avec des textes provenant d'une anthropologue qui a beaucoup étudié comment s'est mise en place la fête de Noël et comment s'est mise en place en particulier l'usage des cadeaux, qui est un usage tout à fait récent, ça n'a même pas 100 ans, et qui nous permet aussi de relativiser cette place des cadeaux qui ont fini par prendre un peu toute la place ce jour-là et dans les semaines qui précèdent, un peu au détriment de la préparation intérieure et d'autres aspects plus humains et spirituels. Une deuxième partie qui revient à chaque semaine, c'est une proposition de quelques textes de prière et de méditation pour se préparer à Noël. Et surtout, il y a dans ce livret de nombreuses fiches pratiques, 13 fiches pratiques décrivant les expériences de tel ou tel et proposant comment les mettre en place.
Qu'est-ce qu'il faut vraiment privilégier pendant ce temps de Noël ?
La clé, c'est vraiment le temps et de se poser avant Noël, que ce soit pour penser à quelqu'un à qui on veut manifester une marque d'attention ou que ce soit pour faire en sorte de vivre ce Noël, pas dans le stress, mais vraiment dans la joie de la venue du Christ. L'idée, c'est de mettre un peu de côté l'aspect cadeau et nourriture, mais de diminuer l'importance des objets et d'augmenter l'importance de la spiritualité et des relations humaines.
Est-ce que vous pensez que chez les fidèles, pour certains, il y a une perte du sens même de Noël dans son essence et qui se focalise plus maintenant sur les choses commerciales ?
Qu'on le veuille ou pas, on fait partie d'une société et on est tous soumis au même poids de la publicité, à la même pression, des messages d'injonction qui nous disent que on est un bon parent, on est un bon frère, on est un bon enfant si on couvre de cadeaux, si on refait toute la décoration de la maison, si on dépense beaucoup d'argent à Noël. Notre idée, c'est aussi de se dire qu'on peut se libérer. Le Christ a porté un message libérateur, c'est pas pour qu'on se fasse enchaîner par la société de consommation. Et aussi que le Christ est venu à Noël dans une humilité extrême. Et nous, comment est-ce qu'on accueille cet humble qui est l'exclu ? Alors l'exclu, ça peut être effectivement d'inviter quelqu'un d'isolé, mais ça peut être aussi de prendre en compte dans notre vécu de Noël la souffrance des personnes qui sont à l'autre bout du monde et qui vivent le dérèglement climatique. Et du coup, nous, en faisant attention aux questions énergétiques, par exemple, ou alors les personnes qui fabriquent des jouets ou des vêtements dans des conditions abominables. Et du coup, on évitera d'aggraver leur souffrance en offrant des choses qui ont nécessité ce travail proche de l'esclavage, en se disant que finalement, ce Jésus qui a été refusé de partout et qui a été laissé à la porte, est-ce que nous, on ne fait pas pareil finalement en excluant de notre fête tout ce qui nous gêne et tout ce qui n'est pas facile à prendre en compte ?
Et vous pensez justement que la période de Noël, c'est une période où les gens sont plus réceptifs à ce genre de changement ou de cette façon différente de voir les choses ?
C'est très ambivalent. On est très tiraillés tous par à la fois l'injonction de consommer et l'envie de vivre quelque chose d'exceptionnel.
Laura Morosini de l'association Chrétiens Unis pour la Terre était interrogée par Audrey Radondi. Et si vous voulez vous procurer ce livret, vous pouvez le télécharger sur le site collectifvivreautrement.org. Je vous signale avant de terminer que samedi prochain à 16h, le pape François se rendra à l'hôpital pédiatrique romain Bambino Gesù pour y rencontrer les enfants malades et leurs familles. Propriété du Saint-Siège, depuis 1924, cette polyclinique est le plus grand centre pédiatrique de recherche d'Europe. Elle emploie près de 2000 600 personnes. La visite du Saint-Père renouvelle une tradition chère à ses prédécesseurs, inaugurée par Jean XXIII à Noël 1958. Et puis sachez enfin que le pape François a nommé nonce apostolique au Canada un archevêque italien, Monseigneur Luigi Bonazzi, qui était actuellement nonce apostolique dans les pays baltes, Lituanie, Estonie et Lettonie. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. N'oubliez pas de nous retrouver également sur internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français.